Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Bonjour Anaïs, bonjour Thomas.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Il est ouvert jusqu'à 15h sur RTL avec Anaïs Bouton. Bonjour Anaïs.
Salut Thomas, salut les curieux. On est les champions, on est les champions. Alors, il y a un autre domaine dans lequel on a des tas d'étoiles.
Ah, vous faisiez supportrice de foot, là.
Mais
c'était
oui,
ça l'imitation, d'accord.
C'est la gastronomie. On remonte aux origines de la gastronomie. Une passion dévorante, une passion française. Vers 14h30 dans votre curiosité.
Et tout de suite, les théories du complot sur RTL.
RTL. Certains groupes Facebook laissent entendre que le gouvernement a cherché à faire diversion avec cette attaque de Strasbourg. Diversion face au mouvement des Gilets jaunes.
La curiosité est un vilain défaut.
En cause, les heures de publication de ces messages sur Twitter. Regardez par exemple le message du président de la République. Il est indiqué 16h55, alors que le message a été posté à 1h55 du matin.
Anaïs Bouton. Thomas Hugues.
En fait, par défaut, quand vous ouvrez un compte Twitter, il est sur le fuseau horaire de la Californie, donc avec 9 heures de décalage. Si vous ne le changez pas, eh bien ça reste comme ça.
Bonjour Christian Domergue.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes écrivain, vous êtes documentaliste, spécialiste des théories du complot. Bonjour Rudi Rechstadt.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du site Conspiracy Watch. Tiens, je vais commencer avec vous, ça consiste en quoi votre travail?
Ça consiste à documenter, à analyser le phénomène conspirationniste et le négationnisme également, sous un angle résolument critique, c'est affiché, et à proposer donc des ressources, des analyses sur ces thèmes-là, sur ceux qui les mettent en circulation, les théoriciens du complot, ces désinformateurs en temps réel aujourd'hui, et c'est un service de presse en ligne dont l'accès est libre, gratuit, et qui propose des contenus originaux, vidéos, textes sur le sujet.
Alors on l'a vu là avec la mise en onde de notre réalisateur François Touchard. Après l'attentat de Strasbourg, on a vu fleurir donc une nouvelle théorie du complot relayée notamment, hein, c'était pas le seul, par Maxime Nicole, l'un des représentants autoproclamés des Gilets jaunes. Alors quand il déclare, je vais reprendre les mots qu'il a prononcés dans cette vidéo postée sur Facebook. Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat, vraiment, il attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h, il va au milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. On est où là? On est dans l'alimentation d'une théorie du complot? On est
oui,
dans quoi?
Oui, d'autant que ça c'est qu'un extrait de son intervention, elle est plus longue et ailleurs dans son intervention, un peu avant, il va beaucoup plus loin, je dirais, il dit que tout ça est bizarre et que si on avait vraiment affaire à un vrai attentat, ça n'aurait pas pris cette forme. Donc on est là dans le schéma, dans le paradigme du terrorisme fabriqué, du false flag, vous savez, l'opération sous faux drapeau, et donc qui nous explique depuis longtemps en 2001 que tous les attentats djihadistes qui ont lieu en France, en Occident et ailleurs sont le fait en réalité de nos propres services secrets, que les théoristes présumés sont en réalité manipulés.
Donc ça s'intègre dans une grande théorie qu'on retrouve régulièrement depuis 15 ans.
Et cette grande théorie, elle a tellement imprimé, elle a tellement imprégné les esprits qu'elle est reprise de manière complètement pavlovienne désormais à chaque fois qu'il y a un attentat de ce type.
Je reviens juste sur ce que vous venez de dire. False flag, c'est quoi rapidement? C'est-à-dire
faux drapeau, ça veut dire opération sous faux drapeau. D'accord. C'est-à-dire on essaie de faire passer un attentat pour ce qu'il n'est pas. Voilà.
D'accord. Christian Domergue, vous n'avez pas été surpris en voyant cette théorie des complots se développer après l'attentat du marché de Noël? Pourquoi?
J'ai pas été surpris parce qu'il y avait un contexte, on va dire, qui était favorable, hein, une crise, donc celle des Gilets jaunes, un gouvernement qui était plutôt acculé, donc c'est vrai que une des rhétoriques de la théorie du complot, c'est il n'y a pas de hasard. Il y a forcément une signification. Donc si un attentat arrive dans ce contexte-là et peut être perçu comme une porte de sortie pour le gouvernement, forcément ça va susciter une hypothèse. L'hypothèse que c'est le gouvernement qui a autorisé ou encouragé cet attentat.
Mais c'est quoi une théorie du complot en fait? Comment vous la caractérisez?
Alors une théorie du complot, c'est une supposition. Qui vise à expliquer un événement par l'existence d'un complot qui va être ourdi soit par un organisme d'État, soit par une institution. Donc il faut distinguer ça du vrai complot. Le vrai complot, on a des preuves puisque les complots existent, hein, il faut pas tout nier. Donc il y a de vrais complots, mais là on a des preuves factuelles que les complots ont été orchestrés, organisés, etc. Dans la théorie, on est juste dans la supposition d'un complot. En général, ça va se baser sur donc ce genre d'argument, le hasard qui ne peut pas en être un, sur des zones d'ombre. Par exemple, pour revenir en septembre, comment c'est possible que deux avions soient détournés pour arriver sur les tours jumelles? on dit c'est pas possible, les Américains auraient dû les intercepter, donc il y a forcément quelque chose. Pourquoi la tour s'effondre de telle façon ? Là aussi, ça a suscité tout un tas d'interprétations. Voilà, on va chercher
face à la violence de l'événement, face à la sidération que cet événement provoque, qu'on se sent quoi, psychologiquement presque obligé de fomenter une théorie où on a envie d'y croire.
Absolument. C'est-à-dire que un des propres des théories du complot, c'est d'émerger dans un contexte de fragilité en fait. Les premières grosses théories du complot, elles vont être développées après la Révolution française. Et c'est assez significatif, c'est-à-dire c'est un moment où la France, telle qu'elle était conçue jusque-là, s'effondre, on n'a plus aucun repère, et pour expliquer que la France puisse s'effondrer comme ça, que le roi qui était de monarchie divine, donc en plus il y avait cette dimension religieuse, tombe, on va expliquer que derrière tout ça, il y a un complot, que ce n'est pas le fait du hasard. Il y a des parallèles troublants en fait entre les deux périodes, et c'est vrai que ça a été après le 11 septembre et donc cette instabilité du monde occidental que les théories du complot qui étaient sous-jacentes depuis un certain nombre d'années ont gagné du terrain et sont devenues ce que certains appellent une idéologie dominante puisque actuellement c'est le cas.
Alors Rudi Reichstadt, avec la Fondation Jean Jaurès, votre site Conspiracy Watch a publié en janvier dernier les résultats d'une étude menée par l'IFOP sur le complotisme en France, et les chiffres sont assez préoccupants. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que d'abord, ils attestent que c'est un phénomène qui traverse toute la société, qui est majeur. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que tout cela ne concerne qu'une fraction très minoritaire de l'opinion publique, non.
C'est quoi les chiffres ?
Écoutez, les chiffres, c'est que vous avez 25% de gens qui croient à 5 théories du complot ou plus sur les 10 qu'on leur propose. Voilà, sur les 10, et 10 qui sont des énoncés particulièrement, caricaturalement conspirationniste.
C'est quoi ces théories auxquelles on croit le plus ?
Écoutez, celles qui ont le plus de succès, en tout cas, c'est celles historiques sur l'idée que la CIA a éliminé le président Kennedy, mais c'est celles également sur les vaccins. Il y aurait une collusion des pouvoirs publics, ministère de la Santé, de l'industrie pharmaceutique,
la nocivité des vaccins,
sur la nocivité des vaccins, pour cacher aux gens la nocivité des vaccins. Ça, c'est très inquiétant.
Et autre théorie du complot particulièrement crue par les Français, selon cette étude de l'IFOP, qui concerne le sida. C'est quoi cette théorie du complot ?
C'est l'idée que le sida était en réalité fabriqué en laboratoire, puis répandu pour génocider la population africaine, la population gay également, ça a été dit. Ça, on sait aujourd'hui, et c'est assez bien documenté, que c'est le résultat d'une opération d'intoxication réalisée par les services soviétiques. Je veux dire, les archives ont été ouvertes, elles ont été exploitées. C'est l'opération Infection, d'ailleurs.
Donc, on connaît l'origine cette théorie du complot.
Et dans quel but ils avaient fait ça pour dire
Dans le but de déstabiliser l'Occident, les États-Unis en particulier.
Et alors, dans cette étude, on trouve encore 16% des Français qui pensent que les Américains sont jamais allés sur la Lune, et 9% qui croient possible que la Terre soit plate. J'avoue que moi, j'ai eu du mal à croire ces chiffres. Est-ce qu'ils vous ont surpris, vous aussi ? Parce que vous parliez d'idéologie dominante, Christian Demergue, finalement, c'est un peu la démonstration de cette idéologie dominante.
Oui, c'est un petit peu la démonstration. Et puis c'est vrai que c'est aujourd'hui à peu près tous les sujets sont objet d'une théorie du complot. Ouais. On va aller vers l'anecdote, mais par exemple, même les Pokémon sont l'objet d'une théorie du complot. Ouais. Alors, suivant le groupe idéologique auquel on s'intéresse, ça va pas être la même explication. Mais dans les milieux islamistes et fondamentalistes chrétiens, par exemple, les Pokémon, c'est de la propagande darwinienne. Pourquoi ? Parce que les petites créatures évoluent. Et donc, dans cette théorie du complot-là, c'est fait pour acclimater les enfants à l'idée de l'évolution et donc de Darwin. Voilà, ça c'est un des exemples.
Et Youssouf Al-Qardaoui, par exemple, qui est le grand théoricien aujourd'hui des frères musulmans qui vit au Qatar, a fait une fatwa pour expliquer que c'était un complot judéo-maçonnique, les Pokémon. Les Pokémon.
On se marre, parce que c'est ridicule et c'est aussi assez inquiétant. Et vous allez nous aider peut-être à lutter, ou en tout cas à trouver des clés, nous, comme citoyens, comme auditeurs, comme lecteurs de presse et téléspectateurs, à trouver les clés pour démasquer une théorie du complot et pas se faire prendre. A tout de suite sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et si les Schtroumpfs n'étaient qu'une propagande de l'idéologie communiste ? Réfléchissez, c'est l'histoire d'un groupe tous habillés pareil qui vit sans argent et partage tout. Comme chez les soviétiques, ils sont obligés de travailler et leur chef, le grand Schtroumpf, a un pouvoir absolu. Leur maison en champignons, elle, rappelle étrangement le Kremlin. Coïncidence ? Je ne crois pas.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
La parodie des grandes émissions sur les théories du complot qui inondent les télés, parce que les théories du complot sont au menu de notre curiosité sur RTL. Et pour les décortiquer, deux invités exceptionnels, l'écrivain auteur Christian Doumergue et le fondateur du site Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt. Christian Doumergue, à quoi on reconnaît une bonne théorie du complot ?
Alors, une bonne théorie du complot, elle a une rhétorique, déjà. Le hasard, on en a parlé. Les faits qui sont troublants, qui sont pas explicables a priori. Et puis, il y a le discours de fond, c'est-à-dire il y a un orchestre invisible derrière le monde, tel qu'on le voit. Et donc, on va toujours impliquer ces manipulateurs de l'ombre, en fait. Mmh. La trame de la théorie du complot, c'est ça. Après, ce qui va être compliqué ou pas, c'est de dire si c'est fondé ou pas comme théorie. Parce qu'on le disait, il y a de vrais complots. Donc, dans certains cas, ça peut être extrêmement difficile de balayer certaines théories du complot. Sur les opérations sous fausse bannière, par exemple, on a évoqué, en ce qui concerne Strasbourg, pour moi, bon, c'est évidemment, ça n'a aucun fondement. Mais au cours de l'histoire, il y a eu d'authentiques opérations sous fausse bannière qui ont été montées. Mmh. Donc, voilà, dans certains cas, notamment pendant la crise cubaine par les Américains, il y a eu ce type d'opération qui a été pensée.
Et justement, on sait qui les invente et qui les diffuse ?
Alors, sur la diffusion des théories du complot, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'émetteur. Parce que l'émetteur de la théorie du complot, souvent, ça va permettre de dire, bon, ben là, on est dans l'intoxication idéologique. Sur le 11 septembre, c'est vrai que c'est une théorie du complot qui a différentes variantes, hein, mais notamment une variante antisémite. Et donc là, on sait que c'est dans certains groupes islamistes hostiles au judaïsme que certaines théories sont nées, notamment celle qui est très facile à démonter sur le numéro des avions. Il y avait une manipulation assez facile à faire. On a dit, regardez la preuve que c'est Israël qui a organisé. Si vous prenez le numéro d'un des avions, Q33NY, vous allez sous Windows et vous convertissez les caractères donc, en caractères Windings, qui est une police symbolique, iconique de Windows. Et là, on avait une image qui apparaissait. C'était deux tours, un avion qui fonçait vers les deux tours, une tête de mort et l'étoile de David. Donc quand on fait cette manip comme ça, on se dit, ben oui, c'est troublant. Il y a quelque chose, il y a comme une signature. Sauf que si on vérifie le numéro des avions, aucun des deux avions n'avait pour code Q33NY. Donc la manipulation, elle était là. Voilà, il y a certaines théories qui sont faciles à démonter. Et quand on regarde celle-là en particulier, elle est apparue dans des pays islamistes, donc voilà, avec une charge antisémite notoire.
Rudi Rechtstadt, on a eu envie de développer ce thème là aujourd'hui dans la curiosité sur RTL, parce que avec la crise des Gilets jaunes, on a vu fleurir quand même beaucoup de fausses nouvelles, de fake news. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de théorie du complot et de fake news?
C'est deux sujets qui se recoupent de toute façon en permanence. Toutes les fake news, toutes les fausses nouvelles n'ont pas une dimension complotiste, d'accord? Et une théorie du complot, c'est pas nécessairement non plus une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, c'est de toute façon quelque chose, un contenu faux qui est disséminé délibérément pour tromper.
Voilà. Mais alors c'est ça moi qui me passionne dans cette histoire. Qui est derrière ? C'est-à-dire qu'on remonte, est-ce que c'est un fantasme ? On remonte souvent à la Russie, on parle d'officines sur le territoire russe ou d'anciennes républiques soviétiques qui alimentent comme ça en fausses nouvelles, en photos truquées, en infos bidonnées. Est-ce que c'est vrai ça ?
Alors, ce qui est vrai, il y a eu une enquête du Times il n'y a pas très longtemps, identifiant 200 comptes russes, de toute évidence, qui ont accompagné, accentué la circulation de fausses nouvelles autour des Gilets jaunes, en mettant notamment des fausses nouvelles à caractère xénophobe, ou des fausses nouvelles expliquant que, montrant des photos complètement sorties de leur contexte et qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait à Paris, et en expliquant que c'était là des manifestants Gilets jaunes qui se faisaient tabasser par des policiers français. Mmh. C'était pas du tout le cas. Voilà. Donc on est davantage dans on met du sel sur les plaies, quoi. Voilà.
Et quel conseil vous pouvez donner à nos auditeurs pour détecter les théories du complot ?
D'abord, savoir comprendre comment ça marche. Effectivement, pourquoi on est séduit par ce genre de contenu ? D'abord, parce qu'il y a un effet dévoilement qui est propre à la théorie du complot, qui produit une satisfaction cognitive très forte, qui est assez similaire à celle qu'on ressent, ce plaisir qu'on ressent quand on a le fin mot d'une histoire, d'une énigme, etc. Et puis, la manière dont tout cela fonctionne, la rhétorique, c'est-à-dire à qui profite le crime, qui est la question rituelle qui revient en permanence, et puis le mélange du vrai et du faux, le mélange du vrai et de l'invérifiable, qui rend d'autant plus toxique la théorie du complot, parce que justement elle a les apparences de quelque chose de rationnel et de vrai. Et puis cette argumentation consiste à renverser la charge de la preuve, vous savez, consiste à dire mais prouvez-moi que le complot que je dénonce est faux. Sauf qu'on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. Voyez donc tout ça, ça fait effectivement l'efficace des théories du complot.
Alors on parlait des inventeurs russes de fake news. La première grande théorie du complot, elle venait de Russie, elle date de 1902, c'est le protocole des sages de Sion. On en parle tout de suite sur RTL.
RTL. Vous êtes tous bien tranquilles, recroquevillés autour de vos petites vies égoïstes, sans regarder plus loin que le bout de votre nez, et pourtant il se trame dans l'ombre d'horribles choses. La fin du monde, la fin du monde.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Avec ma femme aussi, c'est compliqué.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle arrête pas de me dire que tous les complots que je vois, ils n'existent pas. Et évidemment, c'est très gênant, hein, puisque je sais très bien que ma femme, elle n'existe pas.
Ouais. Arnaud Cosson qui voit des complots partout, et bon, on peut en rire, et il faut en rire, mais c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus majeur, un phénomène grandissant en France. Je rappelle, tiens, l'un des chiffres de cette étude menée par l'IFOP il y a un an, 32% des Français pensent que le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. 32%, voilà. C'est pas un petit nombre de Français. Pour parler de ces théories du complot, toujours avec nous, Rudy Reichstadt, qui est fondateur du site Conspiracy Watch, et Christian Doumergue, spécialiste de ces théories qui, pour certaines, Christian Doumergue, existent depuis très longtemps. On va parler des protocoles des sages de Sion. Alors, on est dans une manipulation antisémite qui date de quelle époque ?
Alors là, la grande popularité des protocoles, c'est les années 1920. Mmh. C'est un document qui est né autour du pouvoir russe, en fait. À l'origine, c'est pour manipuler Nicolas II, qui est jugé un peu trop laxiste envers les Juifs. Et du coup, certains proches du gouvernement, des services secrets russes, vont fabriquer ce document de toutes pièces pour pousser le tsar, en fait, à avoir une politique plus antisémite. Et le document, bon, ça, c'est plus ou moins la genèse. Le document va sortir, il va être révélé au grand jour. Des quotidiens comme le Times à Londres vont y consacrer des articles. Et le premier article du Times est assez significatif, parce que là, il y a un vrai doute. Un an plus tard, le Times va revenir en disant c'est un faux, mais la première évocation des protocoles dans le Times entretient le doute, et il va être repris sans cesse après à travers l'histoire. Hein. Hitler, bien sûr,
s'en est servi, ouais.
mais il le cite dans Mein Kampf, mais Ford aux États-Unis va aussi l'évoquer.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces textes ?
Qu'est-ce qu'il y a dans ces textes ? En fait, c'est un plan de conquête. Un plan de conquête du monde, ourdi par les Juifs. Et donc, c'est censé être cette planification, notamment à travers le mercantilisme, à travers l'installation d'une nouvelle société, à travers tout un tas de choses qui permettraient aux Juifs de prendre le pouvoir. Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Au 19e siècle, on a eu d'autres textes de ce type-là. Il y en a un qui est assez significatif quand on retrace son histoire, c'est le discours du rabbin, qui a été repris en France par à peu près toute la presse antisémite, catholique de l'époque. Et ce texte-là, à l'origine, c'est le chapitre d'un livre, Biarritz, d'un roman. Donc c'est un roman, c'est un entretien dans le cimetière juif de Prague, hein, c'est le titre de ce chapitre. Et donc on a des rabbins qui conspirent et qui expliquent comment ils vont prendre le pouvoir.
Donc c'est un chapitre d'un roman, on est dans la fiction.
Voilà, on est dans la fiction.
Ça s'est transformé.
Absolument. À un moment donné, ce chapitre est extrait. Il est cité par un russe, donc dans un livre sur les juifs. Et puis, ce chapitre fictionnel devient une preuve. Et on va le reprendre comme preuve à travers toute la presse, notamment en France.
Alors, donc, ça, c'est pour bien comprendre que les théories du complot, c'est presque vieux comme le monde, ou en tout cas, le monde construit avec des échanges. Des médias, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, on est dans un phénomène d'accélération des théories du complot ? Rudy Reichstadt.
Oui, d'accélération, parce que Internet permet, une caisse de résonance formidable à ces choses-là, qui ont vraiment été sorties de leur confidentialité. Et le protocole des sages de Sion, pour les trouver, dans les années 90 encore, il fallait ou bien fréquenter une librairie d'extrême droite, ou bien militer à l'extrême de l'échiquier politique, mais vous ne le trouviez pas comme ça. Aujourd'hui, en deux clics, vous le trouvez sur Google, en version intégrale. Juste sur les protocoles, ajoutons juste qu'effectivement, c'est un faux, il a été montré que c'était un faux, c'est un plagiat en fait d'un livre qui n'a rien à voir avec les Juifs et qui a été écrit contre Napoléon III dans les années 1850. Mmh. Et on sait que c'est un faux parce que précisément, il recopie les protocoles, ce livre, quasiment parfois mot pour mot.
Voilà. On les trouve toujours quelque part.
Et on trouve toujours, mais si vous voulez, les protocoles, les premiers ouvrages qui ont été écrits sur l'histoire des protocoles, ils datent des années 30. Vous voyez, à l'époque, on expliquait déjà qu'il a été diffusé sans doute à l'échelle planétaire dans des proportions comparables à la Bible. Je veux dire, c'était un livre aussi connu que Mein Kampf dans l'Allemagne nazie. C'est un livre qui a été traduit en arabe dès les années 20 et qui a été répandu vraiment sur le globe en entier. Aujourd'hui, il y a des extraits des protocoles qui sont cités au Parlement grec par des députés obdorés. À la radio vénézuélienne, on entend des extraits des protocoles. Vous avez les protocoles qui sont cités dans des manuels scolaires saoudiens, on le sait, dans la charte fondatrice du Hamas également, palestinien. Il y a des extraits entiers des protocoles des sages d'Ossion. Donc voilà, c'est un document qui a encore une force politique très concrète et actuelle.
Alors nous, quand on écoute du Beyoncé, on trouve ça sympa, ça nous donne envie de danser, mais les complotistes, eux, ils sont persuadés que c'est une sorcière. On va vous raconter ça, ce délire dans un instant, et puis juste après, on se demande comment la France est devenue la meilleure gastronomie au monde. C'est pas français cette phrase, mais tout près.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hume.
Et on décortique les théories du complot sur RTL avec l'écrivain Christian Doumergue et le fondateur du site Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt. Alors on termine, comme nos oreilles sont sûres, on termine avec du Beyoncé. Hein, on m'a pas rêvé là, on termine avec Beyoncé, c'est bien, ça fait danser. Que trouvent les complotistes quand ils regardent un clip de Beyoncé, Christian Doumergue?
Alors ils trouvent des preuves que c'est une Illuminati.
Une Illuminati. Ah, voilà une autre grande théorie du complot.
Donc là, la théorie des Illuminati, c'est qu'on a un ordre comme ça, invisible, qui dirige absolument tout, qui tire toutes les ficelles, qui pratique de la magie noire en l'occurrence, et qui a tout un tas d'esclaves à sa solde. Et Beyoncé en ferait partie. Elle n'est pas la seule, hein, Jay-Z aussi. Enfin, la plupart des grandes figures de show business américain sont censées être des Illuminati. Certains vont en jouer d'ailleurs, hein, comme Rihanna.
C'est-à-dire qu'ils reprennent ces codes et ils s'amusent de ces codes.
Absolument, ils vont s'amuser de ces codes, donc en reprenant toute une symbolique maçonnique, magique dans leurs clips. Rihanna, par exemple, dans un de ses clips, va de façon quasi subliminale glisser la formule Princess of the Illuminati, Princesse des Illuminés. Donc, ces codes-là, en fait, vont cautionner l'idée que elle fait bien partie de ce groupe. Et sur Internet, on a un foisonnement de vidéos qui affichent ces preuves-là. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ça va même concerner des stars françaises. Hein. Alors, Mylène Farmer, c'est pas très surprenant, étant donné son univers, ses clips sont décodés de la même façon. Mais Nolwenn Leroy, là, c'est plus surprenant, va être inclus dans cette théorie du complot-là, parce que dans tel clip, il y a un papillon, que ça fait référence à un programme de la CIA. Voilà, il y a tout un tas d'images qui vont être détournées pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas en réalité et rentrer dans le cadre de la théorie du complot.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je renvoie vers le site Conspiracy Watch et puis Christian Doumergue, vous publiez, je le rappelle, Au cœur des théories du complot, c'est aux éditions de L'Opportun. Merci à tous les deux.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.